Ce qu'il faut, sire, c'est trouver le passage.
Et où est-il, ce passage? Ce célèbre passage que personne n'a vu?
Bonjour, aujourd'hui cinquième et dernier épisode de notre série consacrée au grand navigateur Magellan. Le voyage de Magellan, succès ou échec? Toujours en compagnie de Michel Chandaigne. Dans l'épisode précédent, nous avons raconté l'interminable traversée du Pacifique, l'arrivée aux Philippines où Magellan trouve la mort, atteint par une flèche empoisonnée, le 27 avril 1521. Avant de quitter Séville, Magellan avait écrit dans son testament que s'il venait à mourir pendant le voyage, il voulait que son corps soit enterré dans l'église la plus proche, consacrée à la Sainte Vierge. Il n'en sera rien, puisque Lapu-Lapu, le roi de Mactane, a refusé de restituer le corps de Magellan. C'est donc sans avoir pu lui donner une sépulture chrétienne que l'expédition s'apprête à repartir. À la tête de la flotte, plusieurs hommes au fil des mois vont succéder à Magellan. Quant à l'équipage, il ne reste plus que 113 hommes, un nombre insuffisant pour assurer la manœuvre des trois navires. Alors, le 2 mai 1521, sur l'île de Bohol, aux Philippines, on décide de sacrifier l'un des bateaux, la Concepcion, qui est le plus avarié et qui prend l'eau de toutes parts. Après avoir retiré du navire les cargaisons et tout ce qui pouvait encore servir, on met le feu à la Concepcion.
Moi, Carvalho, capitaine général de la flotte, j'ai donné ordre qu'on vide la Conception de toute marchandise, qu'on enlève la moindre planche, le moindre clou. Nous n'étions pas assez pour armer trois navires. Il fallait sacrifier une nef. La Conception brûle.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
De la brillante et fière flotte qui avait quitté Séville 2 ans plus tôt, il ne reste donc plus que le Trinidad, le vaisseau amiral, et la petite Victoria. Après une longue errance, les deux navires arrivent enfin aux Moluques, les îles tant désirées pour leurs épices, en particulier le clou de girofle. Antonio Pigafetta, qui est toujours de l'aventure, note dans son journal « Vendredi, 8e de novembre 1521, 3 heures avant le tramontin du soleil, nous entrâmes dans le port d'une île dite Tador, l'actuelle Tidore, une île d'Indonésie. Espinosa et Elcano, qui commandent maintenant la flotte, signent des traités de paix avec le roi local, ainsi qu'un accord commercial sur les épices. Il faut maintenant rentrer en Espagne. Les deux commandants décident d'emprunter des chemins différents. Le premier, sur la Trinidad, passera par le Pacifique, le chemin que Magellan avait prévu. Le second, sur la Victoria, par l'océan Indien et le Cap de Bonne-Espérance, des eaux en principe réservées aux Portugais. Mais le 21 décembre 1521, seule la Victoria, chargée à blocs d'épices, peut appareiller. « Nous nous sommes tous quittés en pleurant », note Pigafetta. Si la Trinidad, raisonnée par les Portugais, ne réussira pas à rentrer, la Victoria, elle, commandée par Elcano, sera la seule à faire son entrée en Espagne le 6 septembre 1522.
Et voilà !
La Victoria, un navire de la flotte de Magellan.
Elcano écrit alors à l'empereur Charles Quint : Nous avons découvert et arrondi toute la rotondité du monde.
C'est le plus grand exploit qui ait jamais été réalisé depuis la création du monde.
Michel Chandaigne, les hommes de la Victoria ont conscience d'avoir accompli un exploit extraordinaire. Est-ce que le fait d'avoir fait le tour du monde, c'est un exploit pour eux ?
Alors, le mot exploit est complètement anachronique. Hein. C'est lié aux exploits sportifs de la fin du 19e. Ça commence là. À l'époque, on ne faisait aucun exploit. Mais ils se rendent compte, en effet, qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. En arrivant, ils font escale au Cap-Vert, on va en parler, ils s'aperçoivent qu'il y a un décalage d'une journée avec leur propre calendrier. Et l'explication va venir vite, en faisant le tour du monde, ils vont rattraper les fuseaux horaires, et comme dans le livre de Jules Verne, ils vont gagner un jour. Donc ça va étonner les gens. Quand la Victoria arrive, avec ses morts-vivants dessus, ils sont vraiment étonnés, et là on se rend compte qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, quoi. Alors, la navigation d'Alcano, maintenant, vu aujourd'hui, en effet, c'est un exploit, parce que de Timor au Cap-Vert, 151 jours de navigation sans escale, hein, 50 de plus que pendant le Pacifique. Elcano prend une route très au sud. Il est contre les vents dominants, hein. 151 jours, c'est un exploit. Alors, il passe pas loin des îles Amsterdam, qu'il voit, il double le Cap de Bonne-Espérance, et là, le scorbut commence à se déclarer. Alors, 151 jours, ils sont protégés par le scorbut. Alors cette fois-ci, c'est pas le céleri, ça c'est notre édition qui le montre, c'est les noix de coco. Et ils font chargement de noix de coco énormément en Inde, et dans la noix de coco, vous avez de l'eau, de la nourriture et de la vitamine C. Mais visiblement, la provision de noix de coco s'épuise en route, et donc le scorbut commence à sévir, les morts commencent à tomber, et donc là, ils décident de faire escale au Cap-Vert, c'est territoire portugais, c'est très dangereux. Les Portugais s'aperçoivent qu'ils reviennent des Indes, parce qu'ils ont des girofles, et font prisonnier 12 hommes qui sont retenus au Cap-Vert. Et ces 12 hommes vont revenir à Séville très peu de temps après. Donc sur la Victoria, il n'y a pas 18 survivants, il y a 30 en tout, qui ont fait le tour du monde. Et parmi eux, un Français, Richard de Faudis, un charpentier d'Evreux.
Oui. Voilà. Il y a les 55 aussi qui ont déserté du San Antonio.
Oui, 55, qui sont arrivés le 6 mai 1521, donc ça fait 55 survivants de plus. Et la Trindade, eh bien, il y a parmi les marins qui ont été faits prisonniers des Portugais, après la malheureuse tentative de retour par le Pacifique, eh bien, il y en a 5 qui vont arriver 4 ans plus tard, et qui eux aussi vont faire un tour du monde. Ce qui fait qu'il y a en tout 90 survivants à cette expédition, où il y a eu 237 hommes au départ de Séville, il y en a 3 qui montent aux Canaries et un à Rio de Janeiro, donc ça fait 241, donc c'est beaucoup plus que les 18 que l'on retient habituellement.
Et pourquoi dit-on que ce voyage de Magellan est le plus grand exploit, enfin maritime, je dis exploit avec notre regard évidemment du 21e siècle, le plus grand exploit maritime de tous les temps? C'est ce que vous dites, Michel Chandaigne.
Oui, parce que bon, en effet, il y a un premier tour du monde, et encore aujourd'hui, pour les marins, le tour du monde, hein, c'est le Graal de la navigation. On savait que la Terre était sphérique, mais...
C'était abstrait.
Le fait de faire le tour fait que, ben voilà... C'est fixé, c'est et les cartographes n'auront plus qu'à remplir les blancs dans les cartes, mais la dimension du monde est soudainement figée, fixée. Et puis c'est un voyage de 3 ans, avec 2 navigations en haute mer, celle d'Elcano, celle de traversée du Pacifique, qui sont vraiment des choses complètement inédites à l'époque.
En termes de bilan, je posais la question, est-ce que ce voyage de Magellan est un succès ou un échec? Ça dépend un peu du regard qu'on prend, celui du XVIe siècle. Comment Magellan a-t-il été perçu par ses contemporains?
Magellan a été ignoré finalement, il a le droit à quelques lignes chez les chroniqueurs. Pour les Portugais, c'est un traître. Alors les Portugais ont pu garder les Moluques, mais le Magellan a été un peu effacé de l'histoire, c'est pas un héros national. Pour les Espagnols, c'est presque pire, hein, parce que cette expédition a été ruineuse pour eux. Cette expédition est complètement déficitaire.
Ah, c'est un échec commercial.
C'est un échec commercial. Les Espagnols n'ont pas pu obtenir les Moluques. Le bénéfice pour les Espagnols, c'est qu'ils pourront revendiquer 60 ans plus tard la possession des Philippines. Les Philippines vont devenir espagnoles. Mais pour Magellan, c'est un échec total. En plus, sa femme est morte pendant son voyage, son jeune fils
enfants,
aussi,
oui.
Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un perdant magnifique, quoi. Il a tout perdu.
Vous l'aimez beaucoup.
Il a échoué. Ben oui, mais pas que moi.
Non, bien sûr, c'est pas trompé. C'est un personnage.
Tout le monde est fasciné.
Fascinant.
Parce que justement, c'est pas un conquistador. C'est quelqu'un qui a échoué, mais dans son attitude, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Et toutes les péripéties du voyage sont passionnantes. Beaucoup grâce au récit de Pigafetta, d'ailleurs, qui sait les rendre intéressantes. On ne sait pratiquement rien de Magellan dans les récits, mais on voit cet homme volontaire qui va vers sa perdition. Et pour nous, évidemment, c'est ce qui nous touche, c'est cet homme perdu dans le monde, l'ingratitude de sa patrie, l'attitude des Espagnols. Et le seul pays au monde où finalement il a été vraiment honoré, c'est le Chili. Il est une sorte d'héros national au Chili. D'ailleurs, c'est là où il y a toutes les statues de Magellan. Il y a une province qui s'appelle Magallanes.
Parce que le détroit de Magellan se trouve en territoire chilien.
Chilien, oui. Entièrement. Et donc, là-bas, il est admiré en héros. D'ailleurs, la première biographie de Magellan, c'est fait par un Chilien en 1864. Les premiers recueils de textes, on s'en est beaucoup servi, par un autre Chilien. Tandis qu'en Espagne, il n'y a aucune statue. En Portugal, il y en a une. Érigée en 1960, qui est offerte par le gouvernement chilien. Et c'est pour ça qu'il a été si peu étudié que notre édition, nous, Français, les premiers à le faire, récemment, parce que Magellan ne pouvait servir aucune histoire nationale, aucune histoire patriotique, notamment sous les dictatures franquistes et salazaristes. Donc il a été délaissé par les historiens officiels pendant des siècles.
On a commencé à l'aimer
avec
à la fin du 19e siècle, grâce à Stefan Zweig, même
Stefan
si c'est trompé.
Qui l'a fait connaître
au grand
public.
Livre,
c'est un très beau livre, magnifiquement écrit,
plein d'erreurs.
Très intéressant, mais plein d'erreurs, faut quand même le dire.
Merci beaucoup Michel Sandeil de nous avoir rappelé cette belle histoire. Sur le sujet, je conseille vivement la lecture de Le Voyage de Magellan, la relation de Pigafetta et autres témoignages aux éditions Chandaigne et Lima. À voir une exposition immersive, Magellan, un voyage qui changea le monde, au Musée de la Marine à Paris du 22 octobre 2025 au 1er mars 2026. Cette émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin et de Frédéric Martin, à la technique Loïs Moreau. À lundi, 14h04.